Je vous invite à suivre présent l'émission Dialogue en tant Congolais avec Céline Couté à la présentation. Bonsoir, un seul terme dans les débats de ce soir, à savoir, 3 ans après son investiture à la magistrature suprême en tant que président élu de la Troisième République, le chef de l'État, Joseph Kabila, s'est adressé ce lundi au Congrès sur l'état de la nation, en évoquant les réalisations et les défis à relever pour l'avenir du pays. Quel analyse faire du discours du chef de l'État sur le plan sécuritaire et celui de la reconstruction? 3 invités sont avec moi dans ce studio pour en parler. Il s'agit du professeur Nia Birungu, il est député national PPRD, professeur de droit. Bonsoir professeur.
Bonsoir madame.
Et notre professeur dans ce débat, il s'agit de Jacques Ndjoli, il est sénateur MLC et aussi professeur de droit, il est en ligne. Bonsoir professeur.
Bonsoir Kelly et bonsoir monsieur le professeur.
Bonsoir cher collègue.
Et Jean-Pierre, on peut voir encore un professeur, mais cette fois-ci de sciences politiques à l'Université catholique du Congo et à l'Université de Kinshasa. Bonsoir professeur.
Bonsoir.
Nous n'oublions pas nos auditeurs qui sont aussi invités dans ces débats. Ils sont nombreux à réagir au thème de ce soir. C'est le cas de Robert Baum et de Bukavu Sutivu qui dit ceci. Qu'on ne se trompe pas, en RDC, les défis majeurs à relever restent sécuritaires. Ils pensent que y accorder une attention particulière serait une nécessité absolue. Jérôme dit ici au Bandundu à moins de 2 ans de la fin du mandat du chef de l'État. Je constate que la tolérance zéro, la fin de la récréation et les 5 chantiers pour changer le Congo sont toujours des simples slogans creux. Je veux savoir sur les 5 chantiers quel est celui dont les travaux sont déjà exécutés à plus de 50%. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission, réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Je l'ai dit dans mon introduction, c'est ce lundi 7 décembre 2009 que le chef de l'État, Joseph Kabila, s'est adressé aux 2 chambres du Parlement réunies en Congrès sur l'état de la nation en évoquant les réalisations et les défis à relever pour l'avenir du pays. 3 ans après son investiture à la magistrature suprême en tant que président élu de la Troisième République, professeur Nia Birungu, vous êtes député national du PPRD de la même famille politique que le chef de l'État. De façon générale, avant que nous puissions aborder les aspects sécuritaires et reconstruction avec nous pour ce soir, comment avez-vous accueilli le discours du chef de l'État?
J'ai trouvé le discours très bon. Je l'ai trouvé global et important. Et enfin, je l'ai trouvé lucide.
Professeur Jean Joly, sénateur MLC, vous êtes de l'opposition. Votre appréciation du discours du chef de l'État?
C'est un discours de plus, un chapelet de bonnes intentions, mais une piste d'éducation, parce que lui-même nous a été, il a pu dire que son bilan n'y figurait pas, et que sur le plan social, c'était un aveu d'échec.
Merci professeur Jean Joly. Professeur Mbouibois, vous êtes professeur de sciences politiques aux facultés catholiques. Votre analyse du discours du chef de l'État?
Je trouve que c'est un discours important, mais par rapport au contexte, où 3 ans après son investiture, le chef de l'État devrait parler devant le peuple congolais, et plus précisément devant toute la nation. Je crois qu'il a dit ce qu'il avait à dire.
Merci professeur. Notre débat de ce soir va tourner sur les aspects sécuritaires et reconstruction. Concernant le chapitre sécuritaire, Joseph Kabila s'est dit heureux de voir après plus d'une dizaine d'années le drapeau de la RDC flotter sur toute l'étendue du territoire national. Le numéro 1 congolais a aussi dénoncé les derniers événements tragiques de Dongo dans la province de l'Équateur. Il a affirmé que l'ordre doit être et sera rétabli. Nous vous proposons d'écouter un extrait du discours du chef de l'État Joseph Kabila, sélectionné par Samuel Kachak.
Je suis heureux de rapporter une série de bonnes nouvelles. Ainsi aujourd'hui, le drapeau congolais, symbole d'unité nationale, flotte à nouveau sur toute l'étendue du territoire national et tous les postes frontaliers de provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu ont été replacés sous le contrôle des autorités légales et légitimes de notre pays. depuis bientôt 12 mois, il n'y a plus dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu à proprement parler de guerre, sinon celle que nous faisons au FDLR. Une nouveauté particulièrement pour les adolescents de la région. Depuis leur naissance, ils n'avaient connu que bruit de bottes et de canons. Je ne peux clore le chapitre sur la sécurité sans dénoncer, avec la plus grande fermeté, les événements tragiques de Dongo, dans la province de l'Équateur, où récemment, des affrontements ont opposé des tribus, causant plus d'une centaine de morts, dont des officiers de police. Des drames semblables et tout aussi répétables se sont produits en d'autres lieux du territoire national. Il est du devoir de tous les élus de travailler à l'éradication de ce tribalisme de notre âge. Dans tous les cas, l'ordre public doit être et sera rétabli.
Professeur Nyabirungu, le chef de l'État a annoncé une série de bonnes nouvelles sur le plan sécuritaire, entre autres au nord et au sud Kivu. Le drapeau congolais flotte à nouveau. Les postes frontaliers replacés sous le contrôle des autorités congolaises. Bref, il n'y a plus de guerre proprement dite. Mais nous apprenons que la situation sécuritaire se détériore davantage dans les localités de Magunda et Mugadja, dans le haut et moyen plateau d'Uvira. Selon la société civile, plusieurs attaques des combattants des FDLR se sont déroulées la semaine dernière contre les civils dans ces localités. Selon des sources locales, c'est le départ des FRDC avec les ex-combattants Maïmaï récemment intégrés qui exposent ces localités. Est-ce qu'on peut parler de paix et restauration de l'autorité de l'État, professeur Nyabirungu?
Lorsque l'on veut prendre la mesure de la situation actuelle, il faut toujours avoir présent à l'esprit ce qui s'est passé effectivement il y a 12 mois, comme l'a rappelé le chef de l'État. À ce moment-là, c'était des affrontements massifs et systématiques, et les populations mouraient par milliers, par dizaines de milliers. Cette situation, effectivement, a changé. Ensuite, il ne faut jamais perdre de vue qu'il n'y a pas une paix qui pourrait s'instaurer d'une manière brusque, immédiate. La paix est un processus. Il faut donc toujours comparer les époques et les étapes pour comprendre la qualité de la paix que nous avons maintenant. Je viens personnellement de Goma, au Nord Kivu. J'ai pu me rendre compte de l'évolution très significative sur le terrain, où cette fois on peut dormir et se réveiller sans avoir entendu des coups de feu par-ci par-là. Mais en même temps, effectivement, le Nord Kivu est parcouru par des rumeurs annonçant par-ci par-là des combats ou une reprise de combats. De même, on déplore que les anciens éléments du CNDP aient tendance à mettre en place une administration parallèle avec parfois des tracasseries et des abus sur les populations civiles, sur l'activité des commerçants, avec des taxes excessives, intempestives et illégales. Mais cela dit, on ne peut perdre de vue que ce processus avance et nous avons été rassurés par les propos du chef de l'État quand il a rappelé que il y a un temps pour le dialogue, mais il y a un temps pour l'application de la loi. En d'autres termes, il est temps que ceux-là qui se sont toujours réfugiés derrière des activités guerrières pour faire n'importe quoi, comprennent qu'il y a désormais une constitution, qu'il y a des institutions et que la loi s'applique pour tous et que la violation de la loi a un autre nom, c'est la haute trahison.
Oui, professeur, vous dites que vous revenez de Nord Kivu, plus précisément de Goma. À Goma, c'est vrai que la ville est sécurisée par rapport aux localités où on retrouve les FDLR. Est-ce que dans ces localités aussi, la paix est restaurée?
Disons, la paix est en voie de restauration dans la mesure où les FDLR se sont réduites à des petites unités qui ne sont jamais dans un combat classique vis-à-vis des FARC. De même, on sait qu'il y a beaucoup de groupes généralement appelés Maïmaï, qui du jour au lendemain renient leur signature, changent des alliances, oublient tous les accords de paix de Goma, et cela évidemment ne rassure pas la population. Mais ce n'est plus la guerre, c'est peut-être la guérilla, c'est quelque chose de comparable, mais nous sommes à un autre niveau en termes de sécurité et de paix.
Professeur Jacques Njoli, vous êtes aussi d'avis qu'on ne peut plus parler des guerres aujourd'hui en RDC, que la sécurité est restaurée dans l'est du pays?
Mais je préfère prendre la dernière approche du professeur Nyamirungu, qui, n'est-ce pas, dilue et relativise, n'est-ce pas, l'optimisme du chef de l'État. Le président, lui, il est heureux, mais moi, je suis plutôt sceptique. Parce que, comme l'a dit le professeur Nyamirungu, je connais son sens de mesure lorsqu'il dit en voie de restauration de paix, donc la paix n'est pas encore là. Et il est plutôt important de noter ce qu'il a dit, c'est qu'on n'est plus dans une guerre classique, on est dans la guérilla. Techniquement, ça veut dire quoi? C'est que, contrairement à ce qui est dit, et beaucoup d'ONG qui sont sur le terrain le disent, les FDLR ont changé leur approche. Ils ne font pas une guerre directe au FDLR de RDC. Ils sont dans une stratégie d'évitement, dans une guerre non conventionnelle, et ils gardent intact l'ensemble de leur appareil militaire et de commandement, et ils opèrent par des opérations coup de poing, ils brûlent les villages, ils attaquent les hôpitaux, comme vous l'avez dit, des villages isolés, et ils rentrent dans la forêt. Leur objectif, ce n'est pas de faire la guerre au FDRDC. Donc, il faut rester vraiment très prudent lorsqu'on dit qu'on est heureux. Deuxièmement, je crois que, on l'a dit, il y a des groupes armés, l'ensemble des groupes armés qui ont signé l'accord des Houssis sont en train de remettre en cause. Ce sont des rumeurs, comme il vous l'a dit, mais c'est qu'on n'a pas atteint les objectifs. Alors, le chef de l'État a dit il y a un temps pour négocier, il y a un temps pour appliquer la loi. Quand je vous dis que ce sont des rédits, parce qu'il y a deux ans ou une année, il a dit il y a un temps pour la carotte, il y a un temps pour le bâton. Mais lorsque vous voulez avoir le bâton, il faut l'avoir. Donc la question principale que nous avons, est-ce que nous avons mis en place une stratégie pour construire une armée nationale? Il y a beaucoup de choses qui restent à faire, et aujourd'hui, ce n'est pas en prenant les 12 000 ou les 4 000 ou je ne sais pas combien des éléments de SNDP, les habiller en phare d'essai, qu'on résout le problème. On sait d'ailleurs d'où nous venons, puisqu'il faut parler de cela. Pourquoi il y a eu, n'est-ce pas, nos capitulations de Goma? C'est pas parce que les FARDC ont pu, n'est-ce pas, résister. C'est parce qu'il y a eu un accord, parce qu'il y a eu des interventions. Donc, il faut rester prudent. Je crois que les choses restent en état. Et lorsqu'on fait les bilans généraux de l'opération Kimia, quand on dit que la guerre est terminée, mais ça se m'étonne, parce que l'opération Kimia continue. Donc, c'est qu'il y a encore guerre. Et on continue à se battre. Le village Kalolé a été attaqué il y a deux jours. Et vous venez de donner d'autres villages qui sont attaqués. Donc, les modalités de la guerre ont changé, mais la guerre est toujours là. La paix à l'Est reste fragile. C'est plus encore une éventualité. Et je suis heureux que le professeur l'ait dit. Donc, je suis un peu prudent par rapport à l'optimisme du président. C'est pourquoi je ne vais pas dire comme votre auditeur que nous avons pris en premier, qui disait qu'on risquait d'aller dans les slogans, mais il faut garder la mesure, même s'il faut, n'est-ce pas, dissimuler un certain optimisme au niveau de la population.
Merci, professeur. La mesure. Voilà, merci, professeur. La sécurité, ce n'est pas seulement à l'est du pays, mais aussi à l'ouest du pays, plus précisément à l'Équateur, où le chef de l'État a dénoncé les événements de Dongo et a demandé à tous les élus de travailler à l'éradication du tribalisme qu'il pense être à la base de ces événements. Il a affirmé que l'ordre doit et sera rétabli. Professeur Mbouébo, est-ce qu'on peut parler de sécurité restaurée dans le pays avec tous ces mouvements des parts et d'autres?
Bon, je crois que il est important aussi de ne pas faire vite, n'est-ce pas, de rêves, hein, dans un pays comme le nôtre, que nous connaissons bien. Compte tenu du niveau où nous étions, au moment où le chef de l'État a présenté sa candidature, avec comme programme, n'est-ce pas, la restauration de la paix, je pense qu'aujourd'hui, 3 ans après, en mélangeant la stratégie diplomatique, la politique et aussi la dimension militaire, on est quand même arrivé à des résultats qui ne sont pas mal par rapport aux moyens qui sont mis en œuvre et aux difficultés aussi que l'État congolais rencontre pour pouvoir restaurer la paix. Le professeur Nyabirungu a quand même évoqué quelques cas, a parlé de la prudence qui est nécessaire lorsqu'on parle de la paix à l'Est, étant donné que les formes aussi de cette guerre-là changent, il est, à mon avis, bon d'encourager le bon pas qui est fait dans la bonne direction. Parce qu'aujourd'hui, au moins, nous pouvons dire que dans l'ensemble du pays, l'autorité de l'État est quand même ressentie. Et donc, c'est déjà bon de saluer cet effort, tout en disant qu'il faut que les Congolais restent vigilants pour renforcer cette paix-là.
Voilà, il y a un auditeur qui nous écrit, il s'appelle Mboussa Fouvougo de Boutembo Nord-Kivu. Il dit ceci: les efforts liés pour l'amélioration d'un État sécuritaire en République démocratique du Congo demeurent un facteur limitant au développement et ne devraient normalement pas revenir seul au chef de l'État et son gouvernement. Tous les citoyens congolais devraient se sentir concernés et donc militer la main dans la main, faire preuve de patriotisme pour booster ce fléau qui est la sécurité. Professeur Mbouboua.
Mais c'est vrai, je crois que ce n'est pas la tâche du chef de l'État seul, c'est toute la République qui doit le faire. Et donc tous les Congolais devraient tomber d'accord du point de vue des principes, même si les intérêts parfois politiciens, de temps en temps, ou personnels, amènent certaines personnes à attiser un peu le feu. Mais dans l'ensemble, je crois qu'il est clair que les Congolais, n'est-ce pas, aspirent à un État où ils vivent dans la paix, où ils peuvent valquer à leur occupation et où ils peuvent s'adonner à des activités de développement. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que la condition du Congolais est en deçà du niveau et elle aurait dû être s'il n'y avait pas ce genre de situation qui déstabilise pas mal des Congolais, surtout à l'Est. L'Est du pays qui est quand même un point où on peut bien lancer les activités agricoles et où la guerre perturbe les activités de développement là-bas. Donc il est bon que tous les Congolais travaillent en faveur de la consolidation de cette paix.
Merci professeur. Professeur Jean Joly, revenons sur les événements de Dongo. Le chef de l'État vous demande, vous et lui, de travailler pour l'éradication du tribalisme qui pense être à la base de tout ce qu'on vit aujourd'hui dans la province de l'Équateur. Et ce lundi, il y a eu une panique générale à Guéméla, chef de district d'Ubangi. À l'origine de cette situation, la rumeur de l'arrivée des agresseurs Enyele, baptisé Mouvement de Libération Indépendante des Alliés dans la ville, plusieurs habitants auraient même commencé à quitter la ville par précaution.
Oui, madame, ça montre justement les limites de notre capacité d'assurer ce que vient de rappeler l'autorité de l'État. Si je veux d'arriver à Dongo, je veux d'abord vous dire que si on dit qu'il y a une année de président lorsqu'il est passé, il a dit la sécurité est devenue résiduaire, la sécurité résiduaire au nord Kivu, parce que ça atteignait simplement deux territoires, le massif et le retour. Maintenant, je crois que le professeur Nyano qui vient là, il sait qu'à partir de l'opération Kinia, la sécurité s'est étendue au nord, au sud Kivu, dans le Walungu, dans les Kalé, aussi bien à Lubero et même à Fata, le Maniema et le Nord-Katanga, parce que, n'est-ce pas, il y a un problème de maîtrise de l'espace, de ce qu'on peut appeler les états fragiles. Alors, si je dois aborder la question de Dongo, je crois que cette situation dure depuis 2 ans. Les députés, les sénateurs, lorsqu'ils ont l'intention d'attirer l'attention de l'État sur ces problèmes, mais les approches ont été totalement inadéquates. Maintenant, nous sommes dans une situation où personne ne peut dire exactement ce qui se passe. Et ce que vous dites sur Guéméla, on parle des Libengue, on parle des attaques sur l'eau, je ne vais pas me hasarder là-dessus, mais le président parlait de tribalisme. Mais le tribalisme, madame, est arrivé en système de gouvernement dans beaucoup de pays d'Afrique et même chez nous. Lorsque les gens ont des apports électoraux ou des approches Est-Ouest, et lorsque des gouvernements qui ont trouvé dans les cabinets, tout un cabinet où il y a des gens qui parlent
une langue, le lingala ou le munukutuba. Mais où est-ce que dans une armée, il y a des hommes qui ne parlent qu'une langue, le lingala, ou d'autres qui ne parlent que le swahili? Mais quelle est l'approche globale de l'État sur cette question d'intégration et sur la vision de considérer l'État, l'espace étatique, comme un État unifié? Donc c'est bien de demander aux députés, aux sénateurs, nous allons faire le devoir, mais est-ce qu'au niveau du sommet de l'État, de l'approche générale de l'État, on a une vision nationale? On discute chaque jour sur les 5 chantiers pour savoir pourquoi on privilégie des routes à l'est, c'est parce qu'ils ont des lignes, mais pourquoi à l'ouest il n'y a rien. Tout cela, ça pose un problème de gouvernance globale et une lecture sereine. Bon, et notamment qui intégrerait la situation du Dogo, qu'il faut coupler aussi bien cette situation assez complexe. C'est même pas l'ethnisme, mais c'est l'esclavisme, sur base de la pauvreté et surtout d'absence et des capacités de l'État. On a envoyé il y a une semaine un bataillon, une brigade qui a été apparemment incapable parce que le mouvement est en train de s'étendre. Quelle approche globale on a amenée? Ça fait plus de 2 semaines, 3 semaines qu'on parle de corps qui sont entrés en état de composition à Dongo. C'est quand même assez malheureux. Et c'est ce qui nous pose la question générale de la capacité de notre leadership d'assumer ses charges et ses devoirs.
Mais vous, en tant qu'élu et originaire de cette province, qu'est-ce que vous faites pour trouver une solution à ce problème, honorable?
Madame, lorsque le problème s'est posé, je crois que les amis de l'Assemblée nationale sont allés même raconter le Premier ministre. Ils lui ont proposé leur rapport pour qu'on ait une approche globale, pas simplement policière ou militaire, mais à la humanitaire et politique. Le gouvernement a répondu qu'il avait le moyen. Voilà le résultat. C'est l'incapacité. Et aujourd'hui, c'est la panique dans l'ensemble du district du sud d'Ubangi. On ne sait pas où est-ce que ça va s'arrêter. Cette tâche de l'État, ce qu'on appelle les États manqués ou les États fragiles, qui sont soit incapables, n'est-ce pas, d'assurer la sécurité globale, ou sont, ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas le moyen. Militaire conséquente, on va s'appuyer encore une fois sur la MONUC, et la MONUC ne représentera pas une armée. D'où je vous ai dit dès le départ, et c'est bien de dire qu'on veut, qu'on a accès à la sécurité. Mais la question fondamentale d'un État, savoir disposer d'un outil de défense conséquent, cette question n'est jamais abordée. Au contraire, on semble, n'est-ce pas, instrumentaliser l'insécurité pour des faits économiques. C'est tout simplement dommage.
Merci, professeur honorable Nyabirungu. Par rapport à cette situation de l'Équateur, qu'est-ce qu'il faut pour mettre fin à ce mouvement?
À ce propos, il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit d'une question de très grande actualité, qu'il y a des opérations militaires et de police en cours, qu'il y a des populations en déplacement. Et à partir de ce studio, il ne serait pas sage de jouer aux stratèges pour dire quels sont les moyens, quels sont les mécanismes pour arrêter tout ce conflit. Je pense que c'est le moment même d'en appeler simplement au courage et à la sagesse de ceux-là qui nous gouvernent et qui ont la décision, pour que l'autorité de l'État effectivement revienne, que les personnes et les biens soient sécurisés. Et par ailleurs, en rapport toujours avec Dongo, le chef de l'État parlait du tribalisme. Je pense qu'il doit disposer d'éléments suffisants pour lancer un tel concept à propos de la situation qu'il prévoit actuellement. Et il ne serait pas tout à fait sincère d'ignorer la question tribale. Mais cette question n'est pas rattachable aux 3 ans de mandat du chef de l'État, Joseph Kabila. Vous le savez très bien que depuis toujours, le Congo est confronté au problème des tribus, parfois même des tribus qui jusque-là s'étaient considérées comme des frères. Souvenez-vous de ce qui s'est passé au début de nos indépendances avec la question Luba-Lulua. Voyez ce qui s'est passé au début des années 90 entre nos frères du Kassai et nos frères du Katanga. Il s'agit d'une question de fond qu'il ne faut pas aborder avec une quelconque légèreté. mais en même temps, c'est une valeur effectivement négative qui relève de notre âge. Et nous tous, députés, sénateurs, opposition, majorité présidentielle, nous devons dénoncer les pratiques tribales qui régressent, qui deviennent un obstacle au processus du développement de notre pays.
Merci, professeur. Passons à notre deuxième aspect de ce soir, qui est celui de la reconstruction. Quelle analyse faire du discours du chef de l'État sur le plan de la reconstruction? C'est la deuxième partie de notre émission, mais avant de poursuivre, le rappel de nos contacts.
Dialogue au Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Toujours devant le Congrès, le chef de l'État, Joseph Kabila, a relevé les différentes réalisations de son gouvernement sur le plan reconstruction et réhabilitation des infrastructures routières. Il cite à titre indicatif le tronçon Kingi-Kikwit, Lubumbashi-Kasumbalesa et Mpandaka-Kisangani. Le président de la République a aussi annoncé les travaux de réhabilitation de 300 km de voirie de la capitale. Nous vous proposons encore d'écouter Joseph Kabila, président de la République, dans cet extrait sélectionné, encore une fois par Samuel Kachak.
Plusieurs kilomètres de route ont été réhabilités au cours des 12 derniers mois ou sont en construction, parmi lesquels les tronçons Kingi-Kikwit, Lubumbashi, Kasumbalesa, Beni Kisangani, Mbandaka Bikoro et j'en passe. A été parallèlement lancée la réhabilitation des tronçons routiers Bukavu Kavumu, Kamituga Kasongo, Kisangani Banalia, Buta Bunduki et Lisala Bumba Bunduki. Très prochainement, des travaux de réhabilitation et de bitumage sont lancés sur plusieurs kilomètres, notamment le route Kikwit, Chikapa, Kananga Mbujimai, Kabinda, Kasongo, Uvira, Fizi jusqu'à Kalemi, Pweto Kasomenu, Lubero, Ruchuru, Goma et Niania jusqu'à Iziro. Dans le secteur de la Boissy, d'autres chantiers sont encore en cours ou vont démarrer incessamment avec pour ambition, dans un premier temps, de réhabiliter 300 km d'avoirie de la capitale. Je cite à titre d'exemple les travaux de modernisation déjà engagés sur le boulevard Lumumba le 30 juin, ainsi que le tourisme et bientôt le poids lourd. Au volet des infrastructures ferroviaires, portuaires et aéroportuaires, il y a lieu de signaler le début des travaux sur la piste et le pavillon d'honneur de l'aéroport d'Indi. La réhabilitation et modernisation du chemin de fer urbain de Kinshasa, la construction du port en eau profonde de Banana, la réhabilitation de ports fluviaux sur l'axe Kinshasa-Kisangani. Au chapitre des bâtiments et édifices publics ou privés, il y a lieu de noter à Kinshasa la réhabilitation de l'Institut des bâtiments et travaux publics ainsi que la construction de la première phase de l'université de Kindu et le démarrage des travaux de construction de l'hôpital du cinquantenaire.
Professeur Nabirungu, vous venez de suivre le chef de l'État qui a relevé les différentes réalisations de son gouvernement. On réceptionne les routes, on les modernise, on réhabilite les bâtiments, notamment les tronçons Kingi-Kikwit, Lubumbashi Kasumbalesa, Mbandaka Kisangani et bien d'autres d'ailleurs. Est-ce que c'est suffisant pour trois années de mandat de Joseph Kabila?
Madame, je crois que nous devons garder notre lucidité. Et nous constaterons que jamais, je dis jamais, un gouvernement de la République, jamais un chef d'État n'a été capable en si peu de temps de montrer des réalisations ou de montrer des chantiers en cours ou d'annoncer des chantiers à venir avec autant de précision, avec autant de moyens. La sincérité nous oblige de dire que oui, trois ans, il a réussi à trouver des sources de financement. Trois ans, il a réussi à poser les jalons de la réhabilitation des grandes infrastructures et de la modernisation de ces infrastructures. Trois ans, il a réussi à concilier des ressources de financement qui viennent du système de Bretton Woods en même temps que les contrats chinois. Je crois que s'opposer, critiquer, discréditer ou même condamner le fait qu'il y a des annonces, ce n'est pas tout à fait responsable dans la mesure où les citoyens, ils voient des choses concrètes pour la première fois. Et je dirais même pour la première fois, nous commençons à avoir l'idée de ce que c'est une route. Parce que pendant longtemps, on nous habituait à des bricolages, à voir des brouettes et des pelles sur le boulevard du 30 juin, sans rien maîtriser, ni en termes d'assainissement, ni en termes de canalisation. Nous savons maintenant ce que c'est une route. Voyez la quantité de matériel utilisé, absorbé, la caillasse, les moellons, la main d'œuvre. Moi, je dis, nous sommes en train d'assister à une véritable renaissance sur les infrastructures. Je voudrais terminer juste pour dire, je suis content que dans le discours du chef de l'État, il ait pu évoquer le bitumage prochain de la route Lubero-Rutshuru-Goma.
Là, c'est chez vous.
Une route qui passe dans ma circonscription électorale. Et j'aimerais que le chef de l'État fasse un travail achevé en pensant notamment à des bretelles qui nous conduisent vers la frontière, notamment vers Bounagana ou vers Kassindi. Ça sera un travail remarquable. Nous l'accompagnons de tous nos voeux.
Que le travail soit achevé, qu'il ne reste pas en chantier.
Tout à fait, madame.
Professeur Mbouvoir, quelle analyse vous faites du chantier infrastructure du gouvernement?
Oui, madame, je pense que s'il y a l'une des choses qu'on peut saluer, c'est justement un investissement dans le domaine des infrastructures. Parce que je sais que depuis l'indépendance, nous n'avons jamais pris un engagement sérieux dans ce secteur-là. Surtout, ce qui est bien, c'est que ces derniers mois, on voit quand même qu'avec les travaux des Chinois, c'est du travail de qualité, comme le Sénat vient de le dire, qui s'est fait. Et on sent aussi le sérieux dans le travail, la manière, la méthode, hein, la façon de faire, c'est vraiment autre par rapport à l'habitude qu'on avait de confier des travaux à des ingénieurs ou à des entrepreneurs aventuriers qui faisaient quelque chose de très provisoire. Et tel que le travail s'est fait, je pense que c'est encouragé. Et je sais aussi que nous n'avons pas beaucoup de moyens, mais qu'au moins, le peu de moyens disponibles, on le met dans quelque chose de durable. Donc je pense qu'en termes de projet d'avenir, investir dans les infrastructures pour notre pays, c'est vraiment jeter les bases du développement réel par rapport à toutes les spéculations. Et je sais aussi qu'il y a 12 mois, il y a très peu de gens qui croyaient que le chantier allait effectivement démarrer. Donc là, je peux quand même dire, comme tout autre citoyen dans cette ville ou dans ce pays, peut quand même constater qu'il y a quelque chose qui se fait, même si sur l'ensemble du territoire, ce n'est pas encore évident. C'est-à-dire nous qui sommes à Kinshasa, nous voyons déjà quand même quelque chose. Et compte tenu aussi de l'immensité du territoire, c'est pas du tout facile. Donc, nous saluons, nous encourageons cette détermination à aller dans ce sens-là et nous souhaitons que ces travaux soient accompagnés de toute la rigueur pour qu'on ne laisse pas les aventuriers venir distraire justement ces projets-là.
Professeur, on a l'impression que ce sont les grandes routes qui sont prioritaires et les routes des dessertes agricoles sont négligées. Et pourtant, ce sont des routes aussi importantes.
Voilà. Donc, les routes des dessertes agricoles sont les routes fondamentales pour permettre aux milieux ruraux de pouvoir approvisionner les villes. Ce qui fait que, dans notre pays, l'absence de ces routes des dessertes agricoles nous garde toujours dépendant des produits importés. Ça, nous sommes tout à fait conscients. Mais maintenant, du point de vue des travaux, parce que les travaux se font, je pense que au niveau du chef de l'État, ils essaient de voir des routes qu'ils doivent réaliser, qui puissent aussi convaincre les gens, les citoyens de quelque chose. Je pense que c'est un peu le sens de ce que nous faisons à Kinshasa. Le boulevard, c'est le choix de montrer quand même à la population de la capitale qu'on fait quelque chose ici. Et comme on cite quand même des travaux qui se font aussi à l'intérieur du pays, je suis content de savoir qu'à l'intérieur, qu'il y a aussi effectivement des travaux qui se font et d'autres qui vont se faire dans les mois qui viennent. Hein, mais, comme vous le dites aussi, les routes de dessert agricoles ne sont pas négligées. Hein, il faut vraiment aider que le milieu rural puisse bénéficier des infrastructures pour leur permettre effectivement de soutenir les activités agricoles.
Professeur Jacques Ndoli, le prof Niabirungu, tout comme le prof Mwebwa, se disent quand même satisfaits quant aux réalisations du gouvernement sur le plan de la reconstruction. Votre point de vue à vous?
Mais je voudrais, comme eux, partager l'optimisme, mais il faut faire attention à ce que, en sciences politiques, on appelle la simulacrologie, c'est-à-dire, comme a dit le professeur Bombé, on travaille pour faire montrer aux Chinois qu'on travaille. Non. Tout le monde a besoin de cinq chantiers, mais vous savez, la planification, d'abord, doit faire l'objet de la loi. On doit savoir qu'est-ce qu'on fait. Et il y a eu, on a annoncé cinq chantiers, l'infrastructure. Ensuite, l'eau, l'électricité, la santé, l'enseignement. C'est sous base, n'est-ce pas, de ces paramètres, n'est-ce pas, que nous allons juger du travail après 30 ans. Et le chef d'État était d'ailleurs très honnête pour dire qu'en fait, il n'est pas là depuis 3 ans. Il est là depuis 81. Bien sûr qu'il n'était pas seul, mais il a déjà, n'est-ce pas, réalisé pratiquement deux mandats américains. Donc, mais si on laisse les deux mandats, prenons les 3 ans, c'est bien, j'ai suivi beaucoup de projets. Et si ça s'est réalisé, mais, comme dit le professeur Goubelot, ben, ce serait une bonne chose, mais vous savez, dans ces pays, on a attendu qu'on allait faire des métros légers, qu'on allait faire des ferries entre Ibibo, on nous annonce des routes. C'est bien, donc il ne faut pas confondre, n'est-ce pas, le développement et la modernisation du Congo avec la voirie urbaine. Ça, c'est du travail, n'est-ce pas, de l'autorité urbaine. Donc, lorsqu'on prend le moyen destiné à la ville pour faire le travail de la ville, eh ben, ce n'est pas cela. Et quand on parle d'infrastructure, heureusement le professeur vous l'a dit, il suffit d'avoir une vision claire. Qu'est-ce qu'on veut? Les routes de dessert américaines sont fondamentales pour recréer une économie. Ce n'est pas en faisant des bretelles de boulevard, Lumumba ou autre, qu'on règle le problème de la circulation de la ville de Kinshasa. Ça, c'est un problème fondamental. Donc, il ne faut pas faire de la propagande de la circulation au jour de la paranthologie. Deuxièmement, c'est une chantier emploi. Aujourd'hui, 4% des Congolais travaillent. Nous ne voulons pas dire qu'il faut une baguette magique pour qu'on arrive au plein emploi. On doit nous dire quels sont les paramètres. Donc, un, la planification comprend un ensemble de projets, des projets qui se réalisent suivant un chronogramme, et ces projets ont des moyens bien déterminés et qui nous donnent des mécanismes d'évaluation. C'est bien, sinon ça devient de l'illusion. On va prendre 100 millions pour construire un hôpital de centenaire, mais moi je peux dire qu'avec 100 millions, je peux construire 10 hôpitaux dans l'ensemble de l'État, le province. On parle de dispensaires qu'on devrait construire sur l'ensemble du territoire, je n'ai pas encore vu. Bon, on parle de routes, mais tout cela c'est très bien, nous voulons bien, mais ça doit reposer, n'est-ce pas, à une synergie, à une vision et à un cadre juridique qui comprend pour que nous puissions, n'est-ce pas, évaluer de manière objective. Sinon, ben, tout le monde peut danser le djalélo et dire que oui, il faut louer. Ben, c'est ça. Moi, je veux bien, mais aujourd'hui, tous ces chantiers doivent avoir un but. Est-ce que les Chinois aujourd'hui a de l'eau? Il n'en a pas. Est-ce que les Chinois a l'électricité? Construire des buildings, on en a construit, le CCIZ, on a construit la cité de la voie du Jaïr, on a construit la sidérurgie de Maluku, on a construit la cité de l'ancienne, on a construit le stade Kananiola, on a construit le palais du peuple, mais à la fin, le Congo était dernier et 32 ans de dictature nous ont amené vers. Maintenant, on nous dit, on construit les boulevards, on construit le boulevard Lumumba, on va construire. Qu'est-ce que ça change dans les vécus quotidiens? Heureusement, le président lui-même a dit qu'en termes de dividendes social, il n'y a rien. Aujourd'hui, le Chinois a l'impression qu'il est arnaqué. Il doit payer des vignettes, il doit payer des assurances, il n'a pas de transport, il doit payer une facture de la régie des eaux, il ne voit pas de l'eau, il doit se réveiller à minuit pour aller chercher, n'est-ce pas, de l'eau, il n'a pas d'électricité, il doit payer la facture de la stèle.
Oui, pour ça.
On fait de l'économie pour l'homme, on ne fait pas d'économie pour chanter les louanges d'un individu.
Merci, professeur, on vous a compris. Professeur Nyabirungu, le prof Ndoli dit que tous ces chantiers doivent avoir un but. Qu'est-ce que ces chantiers ou cette reconstruction va changer dans les vécus du Congolais?
Je suis dit, mais on ne peut pas, si on ne recourt qu'au seul bon sens, dire que disposer d'un boulevard, c'est du temps perdu. Dire que disposer d'un hôpital de 100 millions, c'est de l'argent jeté. Ce serait trop simplifier les choses. Je pense que la République démocratique du Congo a droit à des infrastructures. C'est vrai qu'on a, c'est un exemple des anciennes infrastructures qui n'ont servi à rien et qu'effectivement, c'est dans le cadre d'une vision qu'on peut faire des infrastructures socialement utiles. Mais il s'agit des instruments nécessaires. N'oubliez pas quand même que pendant 15 ans, pendant que d'autres villes se développaient, Kinshasa est resté comme un gros village. Entre-temps, c'est une ville très habitée. On parle autour de 8 millions d'habitants. Comment voulez-vous gérer 8 millions d'habitants s'il n'y a pas des infrastructures comme des boulevards qui permettent une certaine circulation, mais aussi qui donnent de la République démocratique du Congo une certaine image, parce que nous ne devons pas perdre de vue que la République démocratique du Congo a une vocation à la grandeur. Quant aux routes de desserte agricole, c'est mal ignorer les réalités. Elles se font. Il y a un projet très précis. Nous, évidemment, nous parlons de ce que nous voyons. Et le Congo est vraiment un pays immense. Par contre, si on demandait à un responsable des infrastructures, au ministre, par exemple, des travaux publics, ou au ministre du développement rural, c'est sûr qu'ils vont nous tenir informés d'un travail important qui se fait à ce niveau. Donc, ne donnons pas des jugements globaux et définitifs comme si nous avions sous nos yeux toutes les réalités ou tous les travaux en cours.
Merci, professeur. Professeur Mbouéboua, il y a un auditeur qui nous écrit de Lubumbashi, il s'agit de Yves Loubouli. Il dit ceci, il pense qu'un mandat ne sera jamais suffisant pour la reconstruction, qu'on arrête avec des entreprises fictives qui décrochent les marchés pour ne pas exécuter les travaux par la suite, laissant les Chinois étendre leurs ouvrages à travers tout le pays.
Oui, je pense que c'est un travail de longue haleine, hein? Donc ce n'est pas en 5 ans qu'on va régler tous les problèmes qui n'ont pas été réglés pendant 40 ans. Je pense qu'il y a au moins la bonne volonté de le faire et surtout la détermination d'engager tous les moyens de la République dans ce sens-là. Parce qu'on a assisté dans ce pays à des gaspillages, n'est-ce pas, des ressources pour des choses qui n'avaient pas un impact sur le plan du développement. Mais au moins lorsqu'on met de l'argent dans des infrastructures comme les routes, je pense que pour un pays vaste comme la RDC, de toutes les façons, on offre à tout le monde la possibilité, n'est-ce pas, de se développer. Parce que la grande difficulté de notre pays, c'est les contacts. Nous n'avons pas de contacts, les provinces n'ont pas de contacts faciles entre elles. Il faut prendre des avions, donc on ne sait pas déplacer des marchandises. Les gens ne savent pas commercer entre eux et les problèmes d'intégration du pays, n'est-ce pas, devient un problème sérieux et qui handicape sérieusement le développement de notre pays. Donc, dans ce sens-là, s'engager dans la voie des infrastructures, c'est une bonne chose.
Merci, professeur. On considère ça aussi comme votre conclusion. Professeur Nyabirungu, tous ces chantiers que vous lancez seront achevés, on espère.
J'ai confiance dans les travaux en cours. J'ai confiance dans ceux-là qui en ont pris l'initiative. Je prends pour une belle phrase celle prononcée par le chef de l'État ce matin lorsqu'il a dit que ensemble et déterminés, nous pouvons gagner le pari de la modernisation de la République démocratique du Congo.
Professeur Njoli, en 10 secondes, votre conclusion.
Mais je veux aussi prendre une phrase du président quand il dit que il faut
satisfait qu'on quitte le temps de consultation et des études pour passer au temps de la réalité. Le Congo a trop vécu des illusions et des promesses non tenues.
Merci, professeur. Merci, professeur. C'est la fin de cette émission Douma sur les aspects que nous avons évoqués ce soir. Douma, on poursuit le même débat sur d'autres aspects évoqués par le chef de l'État, notamment l'aspect judiciaire, économique et social. Merci à Héritier qui est à la technique, à la réalisation Guy Maté, assisté de Samuel Kachak. Martin Sebujangwe a coordonné cette émission. Au micro, c'était Kelly Nkouté. Je vous cite rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau numéro des dialogues entre Congolais. Bonne suite de programme sur Radio Kati.